Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici ce soir pour la troisième conférence de l'année 2018-2019 où nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Denis Rioux, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses travaux portent sur la modernité et sur les avant-gardes qui ont jalonné le siècle jusqu'aux années 60-70, comme en témoignent ses articles et ses notices dans les catalogues d'exposition. Auteur d'ouvrages, il a publié une anthologie de textes, « Les écrivains dans l'impressionnisme » paru chez Macula. Yves Klein, manifesté le monochrome chez Gallimard en 2006. Constantin Brancusi, « L'ellipse et l'oiseau » aux éditions Scala en 2012. « Qu'est-ce que l'art moderne ?» chez Gallimard avec une réédition en 2016. Et prochainement va paraître un autre ouvrage intitulé « Œuvres invisibles » chez Gallimard dans la collection « Art et artistes ». Pour la conférence de ce soir, M. Rioux va nous parler de Yves Klein, du monochrome à l'invisible. Et il me reste, M. Rioux, à vous remercier infiniment d'être ici ce soir parmi nous. Merci. Merci.
Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, chère madame. Et aussi, merci à vous d'être venu entendre Yves Klein et moi-même préciser les intentions qui sous-tendent l'une des plus fameuses expositions du XXe siècle. Exposition qui est connue sous une appellation trompeuse. Vous comprendrez, je l'espère, à l'issue de cette conférence pourquoi. Elle est connue donc sous le nom d'exposition du vide. Je vais donc vous présenter cette manifestation et ses conséquences avec l'aide de l'artiste dans une sorte de duplex ou de vidéoconférence avec lui, par-delà le temps, car il eut l'excellente idée, rare à son époque, de faire enregistrer la conférence qu'il prononçait en Sorbonne, et surtout, c'est ça qui est rare, de faire réaliser des films pour mieux documenter ses expositions. Mais commençons par le début. Yves Klein est célèbre pour son bleu, une couleur qui l'aurait fait breveter, le fameux International Klein Blue, le fameux bleu Klein. Au début de son aventure monochrome, l'aventure monochrome, c'est le terme qu'il utilise. Hein. L'aventure, c'est très beau comme manière de concevoir son parcours. Bref. 8 ans lui ont été donnés, puisqu'il est mort prématurément, en 1962. Donc, son aventure monochrome débute en 1955. L'artiste expose alors des propositions monochromes de diverses couleurs. Entendez par proposition monochrome l'idée de toile unie, peinte d'une seule couleur, sans aucune nuance. Mais ces monochromes exposés sont donc, comme je le disais, de diverses couleurs. L'année suivante, lors d'une discussion avec le public qui a été organisée dans le cadre de son exposition nouvelle, donc à la Galerie Colette à lundi, il constate que les spectateurs relient entre elles ces peintures accrochées aux cimaises et qu'ils perçoivent ainsi une polychromie décorative. Comment éviter cela? En exposant des tableaux tous d'une seule et même couleur, se dit Klein. Il choisit le bleu, ignorant sans doute, à l'époque, que c'est la couleur préférée des Occidentaux. Ce sont les travaux de Michel Pastoureau, comme vous le savez, qui nous ont permis de bien comprendre l'évolution du bleu au cours des temps. Et sans doute lui-même victime, si j'ose dire, de ce tropisme, la couleur bleue qui l'attire. Alors il réalisera son rêve au début de l'année suivante, lors de son exposition à Milan, dans le cadre d'une galerie qui s'appelle la Galerie Apollinaire, que dirige Guido Lenossi. Nous sommes donc en janvier 1957, et c'est dans cette exposition, vous voyez une photographie ici en noir et blanc, qu'il réalise cette démonstration de peinture monochrome. Vous voyez bien qu'il y a un peu d'humour là-dedans, puisqu'il n'y a pas de peinture sur le rouleau. Les jeunes femmes sont tout à fait attentives. Mais le document vaut aussi pour une autre raison, c'est le mode d'accrochage de ces tableaux qui sont disposés dans l'espace de la salle. Il ne dit curieusement pas un mot dans sa conférence à la Sorbonne en 1959 de ce mode d'accrochage que vous voyez là, derrière lui, à savoir que les tableaux, au lieu d'être accrochés sur le mur, sont disposés devant la paroi et parallèlement à celle-ci. Cette disposition, pour le moins inhabituelle, devait concourir à faire rayonner, c'est sa manière en tout cas de comprendre les choses, à faire rayonner la couleur dans l'espace de la galerie. Alors maintenant, imaginez que vous êtes à la Sorbonne, assis dans l'amphithéâtre Descartes, parmi le public, dont je vais vous montrer dans un instant une photographie. Vous allez entendre Yves Klein expliquer ce qui s'est passé, selon lui, au cours de cette exposition milanaise. Écoutez bien, car il parle vite, et sa voix, je le sais d'expérience, peut déconcerter. Mais il est toujours touchant de l'entendre, de percevoir sa conviction, et peut-être de se laisser convaincre par lui. Donc, il est là, à la Sorbonne, en train de parler, et maintenant, vous êtes dans le...
Et remontons dans le temps, maintenant à l'époque bleue de 1957, elle me fait découvrir que mes tableaux ne sont que les cendres de mon art. J'expose des peintures monochromes, bleues, toutes identiques, de même format et de même ton chez Iris Clair et Colette Alindy. Des controverses assez passionnées soulevées par cette manifestation me prouvent la valeur du phénomène et la profondeur réelle du bouleversement qu'il entraîne chez les hommes de bonne volonté fort peu soucieux de subir passivement la sclérose des concepts reconnus et des règles établies. Chacune de ces propositions monochromes bleues, toutes semblables en apparence, sont reconnues par le public bien différentes les unes des autres. L'amateur passe de l'une à l'autre comme il convient et pénètre dans un état de contemplation instantanée dans le monde du bleu. L'observation la plus sensationnelle est celle des acheteurs. Ils choisissent parmi les 11 tableaux exposés chacun le leur et le paient chacun le prix demandé, et les prix sont tous différents, bien sûr. Ce fait sert à démontrer que la qualité picturale de chaque tableau est perceptible par autre chose que l'apparence matérielle et physique. Ceux qui choisissent reconnaissent cet état des choses que j'appelle la sensibilité picturale.
Alors, cet extrait est tout à fait fascinant parce que c'est rétroactif. Il parle d'une exposition qui s'est déjà déroulée. Là, nous sommes en 1959, mais il invente en quelque sorte une fiction, celle de tableaux absolument semblables, de même format, de même couleur, de même texture, mais qui sont proposés ou qui auraient été proposés aux amateurs à des prix différents. Et les amateurs auraient choisi, comme il le dit, chacun son tableau en fonction de quelque chose, donc qui, et c'est le point essentiel, qui ne relève pas du visible. C'est une expérience, au fond, que nous pouvons faire. Parce que nous savons bien, quand nous visitons une exposition en compagnie, que la personne à côté de laquelle nous sommes regarde le même tableau, mais n'éprouve pas forcément ce que nous éprouvons nous-mêmes. Autrement dit, le visible seul ne règne pas en maître. De cette observation, Yves Klein va tenter de déployer toutes les conséquences. Et c'est à partir de là qu'il va imaginer cette exposition qui est le centre de cette conférence, l'exposition donc dite du vide. Il n'est pas erroné de dire que la qualité picturale n'est pas visible. En effet, aucune qualité n'est directement visible. On l'extrait du visible. C'est nous qui imaginons ou observons que la qualité picturale est là. Il va donc essayer de nous toucher, de s'adresser à nous, sans le recours direct du visible, c'est du moins ce qu'il va expliquer plus tard. Est-il possible de se passer des yeux du corps pour s'affranchir du visible et faire naître ainsi et faire agir cette sensibilité picturale? Alors j'utilise à dessein la locution « yeux du corps », les yeux du corps, parce qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une très ancienne dichotomie qui oppose les yeux du corps aux yeux de l'esprit ou, selon l'époque, les locuteurs, aux yeux de l'âme. Aux yeux de l'esprit, les yeux de l'âme, c'est la même chose, c'est-à-dire que ces yeux observent quelque chose qui n'est pas de l'ordre du visible et pourtant cela agit. Alors Yves Klein a souvent testé ses intentions avant de passer aux actes à grande échelle. C'est un expérimentateur et il est d'une certaine manière parfaitement rationnel. On pourrait même prétendre, peut-être en exagérant un peu, qu'il se montre disciple de Claude Bernard et de sa méthode expérimentale qui procède par essai et rectification. Yves Klein va donc, avant de passer aux actes à grande échelle, effectivement procéder à un essai de manière privée. Alors, cet essai d'immatérialisation du bleu, ça va se dérouler pendant sa double exposition aux galeries Colette Alindi et Iris Clair en mai 1957. Donc, je vous rappelle les dates. Hein. En janvier, nous étions à Milan. Et puis là, en mai, c'est à Paris, il tient à faire connaître ce qu'il appelle pompeusement sa période bleue, avec sans doute un peu d'humour aussi, aux Parisiens. Et donc, une double exposition est organisée. Vous avez là le carton d'invitation avec un petit texte de Pierre Restany et sur le verso, vous avez cette surface bleue. Mais j'attire surtout votre attention sur le petit timbre qui a servi à affranchir cette invitation envoyée par la poste, qui est un timbre bleu, connu aussi. Il a réussi. Klein est très entreprenant et il sait convaincre. Il a réussi à obtenir que les services des postes affranchissent un timbre qu'il a fabriqué lui-même. Alors, par ailleurs, il a payé, bien entendu, mais cette opération n'était sans doute pas simple à réaliser. Et naturellement, vous imaginez bien que ce petit timbre bleu est déjà quelque chose qui est comme un apéritif, enfin un appel à ce que l'on va pouvoir découvrir dans l'exposition. Donc, si nous poussions la porte de la galerie Colette Alindi à Paris, dans ce mois de mai 1957, nous pouvions voir ceci. Le film est muet, donc je vais permettre quelques commentaires. Donc là, c'est sa galeriste Iris Clair qui rentre chez Colette Alindi, et ensuite vous parcourez l'exposition avec une sorte de caméra subjective, une caméra portée sur l'épaule, et Klein nous montre ses différentes réalisations. Donc, paravent bleu, ici. Le bleu en pigment pur qui est déposé sur le sol. La texture de ces monochromes peints. À nouveau, le pigment bleu déposé sur le sol, Le film est d'une qualité un peu médiocre. Ils ont été restaurés par le Centre Pompidou en 2000, mais ils sont très importants parce qu'ils nous donnent des informations dont on ne pouvait pas disposer avant de les voir véritablement, surtout pour la suite. Donc un disque bleu, des volumes, cette idée aussi d'occuper l'espace avec la baguette pour bien nous montrer dans le film que ce sont des volumes. Une tapisserie, là, tapisserie bleue, petite maquette, Yves Klein lui-même, éclairé. Et là, des pluies bleues, ce sont des bâtonnets suspendus qui bougent un peu, qui sont bleus. Et vous avez vu cette affiche que je vous remontre là, qui nous entraîne à aller voir la suite de l'exposition au premier étage. Alors cette suite de l'exposition, c'est là que ça va se passer véritablement, elle était réservée à quelques amis, à quelques privilégiés, journalistes par exemple. C'est là que Klein va procéder au test. Est-ce que des blocs de sensibilité ou des surfaces de sensibilité picturale, donc en l'absence de tableau, peuvent être convaincants? Klein, de même qu'il a mimé une séance de peinture de monochrome à Milan, ici, il va utiliser une sorte de pantomime pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose quand nous ne voyons rien. Donc le film se poursuit et nous allons voir ce qui se passe. Klein nous présente donc un tableau, il le considère le mur sur lequel il y a sans doute des surfaces de sensibilité picturale. Au moins un commentateur de l'époque, Julien Alvard, s'est montré réceptif à ce qui était, si j'ose dire, présenté à ce premier étage dans la galerie Colette Alindy. Il s'agit du critique d'art Julien Alvard, qui est un critique connu à l'époque et qui écrit dans une revue qui est elle aussi connue, Simèze. Et donc, il va décrire cette exposition, il parle de l'articulation entre le bleu des œuvres, première phase que nous avons vue au premier étage, et ce qui survient ensuite, et il évoque l'envoûtement, le terme est de lui, par lequel, dans une chambre claire et sans aucun tableau, se révèle la présence du bleu sans aucun support. Au fond, il a tout à fait compris, enfin, ou il a entendu ce que Klein lui a raconté. L'auteur, donc Julien Alvard, ajoute « L'expérience d'Yves prouve l'extraordinaire puissance de la persuasion. Rien n'est là, tout est là. » Donc c'est dans un article de juillet-août 1957. Vous commencez à comprendre, j'imagine, comment l'idée de l'exposition du vide prend corps dans l'esprit de l'artiste. Il y travaille, convainc Iris Clair, tâtonne encore, et peu avant l'ouverture de cette exposition, le 28 avril 1958, c'est le jour de son 30e anniversaire, il cherche encore un titre. Et vous voyez là cet encart paru dans la presse d'une part, et d'autre part, l'encart est ici, donc j'ai juste photographié la partie utile, et d'autre part, un projet d'enveloppe avec ce terme qui est utilisé, exaspération, monochrome, et bien entendu, le petit timbre bleu qu'il a dessiné sur cette enveloppe, sur ce projet d'enveloppe. Alors, c'est tout à fait intéressant ce terme d'exaspération parce qu'il est un peu, on va dire, ambigu. Et c'est savoureux aussi cette ambiguïté. Klein y est sans doute sensible. L'exaspération, ça désigne bel et bien ce que, enfin, d'après le dictionnaire Littré, on pourrait nommer un état d'agitation, d'irritation des esprits. Mais ça désigne aussi, toujours selon Littré, un accroissement de l'intensité. Et c'est exactement de ça dont il s'agit selon Klein. Et évidemment, ce terme d'exaspération est proche d'exacerbation. J'ai d'ailleurs fait moi-même le lapsus en vous le présentant. Et c'est bien de cela qu'il va s'agir. Il va s'agir d'exacerber les qualités de rayonnement de la couleur en son absence, et précisément d'autant plus puissante qu'elle n'est en quelque sorte freinée par aucune matérialité. Alors, il a imaginé aussi comme ça, d'autres termes, comme par exemple, il va parler quelque temps de son époque pneumatique. Bon, pneumatique, ça se réfère au pneuma, notion grecque, le souffle, enfin, pneumatique, enfin, on pense quand même aux automobiles à l'époque, et donc ça prêtait le flanc aux railleries et à l'incompréhension, il abandonne très vite. Et puis finalement, il décide de ne pas nommer cette exposition, mais d'inviter les amateurs au vernissage avec un texte qui est signé Pierre Restany, critique d'art, très important à l'époque, qui est le complice, peut-on dire, de Klein, et qui va parler d'une manifestation, c'est dans le texte que vous voyez, d'une manifestation de synthèse perceptive. Alors, tout ça est assez difficile à comprendre, bien sûr, et peut-être ça ne doit pas être compris directement. Mais que voyaient donc les invités quand ils allaient dans cette galerie Iris Clair le 28 avril 1958 ? Ils étaient très nombreux, ils attendaient dans la rue, avant de pouvoir pénétrer par groupe de 10 dans la galerie pour ne pas tout simplement encombrer et surtout troubler cet ordre qui régnait là. Donc, pour savoir ce que l'on voyait dans la galerie, on peut à nouveau passer un film dont on dispose. Donc on est dans la rue des Beaux-Arts, dans le 6e arrondissement, tout près de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. On passe sous un des bleus. C'est Klein qui soulève le rideau, là. Et maintenant, nous allons pénétrer dans la salle. Alors Klein fait faire par le réalisateur du film des gros plans pour qu'on voit bien à la fois l'absence d'œuvres visibles et aussi cette blancheur des murs. Naturellement, nous avons le bureau quand même de la galerie d'Iris Clair qui est maintenu. La vitrine qui à l'extérieur est bleue est ici blanche. Un détail sur les murs, la lumière qui vibre. Et ensuite, on a terminé sur Livre d'or qui, par parenthèse, est conservé, sur lequel il y a toutes sortes de choses tout à fait intéressantes, et dont je ne parlerai pas ici. Alors, vous l'imaginez bien, cette manifestation a suscité beaucoup de commentaires et continue à susciter beaucoup de commentaires et d'interrogations. Pour ce qui est des commentaires, je vais d'abord vous en citer un qui est de Catherine Millet et qui date de 1983, dans un livre qu'elle a consacré à l'artiste. Elle écrit ceci. « J'imagine cette scène. Dans le courant des années 1970, un artiste conceptuel visite une reconstitution de l'exposition du vide, donc elle l'appelle comme ça, ce qui serait tout à fait dans l'esprit de la muséographie actuelle. Ça reste d'actualité. À l'entrée, poursuit Catherine Millet, une notice reproduit les citations de Klein ou bien la courte préface de Restany, littérature que notre artiste, en cette époque plongée dans des lectures marxistes, juge un peu trop idéaliste. Puis il pénètre dans la pièce où son attention, en revanche, est retenue. Là où il n'y a rien à voir, lui examine la salle d'exposition, le lieu sociologique destiné à conserver et à mettre en valeur les œuvres d'art. Il s'intéresse à ses proportions, à son éclairage, que sais-je, à la couleur de la moquette. Lecture critique. L'œuvre immatérielle dénonce les conditions matérielles de l'exposition. C'est tout à fait crédible. Catherine Millet connaissait bien les artistes conceptuels des années 70 pour avoir d'ailleurs écrit aussi sur elle. Et il est en effet possible de remarquer, vous l'avez vu dans le film, que les murs peints en blanc pouvaient avoir une certaine granulation. Et donc on a pu imaginer, d'autres ont pu imaginer plus récemment, que, au fond, l'artiste avait réalisé une sorte de grand monochrome mural blanc, et qu'il ne s'agit pas du tout de peinture en bâtiment, mais qu'il a fait migrer la monochromie de ses tableaux sur les murs de la galerie. Quant à l'époque, une chronique du Monde résume les réactions de la presse. Je vous en lis quelques-unes de ces réactions notées dans cette chronique du journal Le Monde. Révolution par le vide, c'est le journal Art. Exposition de blanc, c'est la Croix. Vive rien, c'est noir et blanc. C'est ainsi que la presse a vu la dernière exposition d'Yves Klein, ajoute le chroniqueur. Où sont les tableaux, demande le visiteur aventuré dans ce tabernacle. Et voici la réponse d'Yves Klein, qui va plus loin, en fin de compte, que sa plaisanterie. Donc, plaisanterie, c'est le chroniqueur du Monde qui le dit. Et la réponse d'Yves Klein, c'est de la Croix, dans son journal, fait grand cas de la notion d'indéfinissable. Moi, j'en fais mon matériau essentiel, une utilisation systématique. Le tableau, à force d'être indéfinissable, se fait absence. Un seul commentaire est favorable, très favorable, c'est le commentaire publié dans le journal Combat, sous la plume de Claude Rivière, qui est aussi une critique importante de l'époque. Et elle évoque des réactions positives. L'article est assez long et assez élogieux. Le public, dit-elle, réagit d'une manière assez étonnante. Et l'on peut affirmer que 40% des visiteurs restent là, pénétrés de la magie de la couleur et se demandant avec intérêt quelle aventure se déroulera après l'audace de ce vivant recommencement. Je ne sais s'il s'agit d'un vivant recommencement, mais enfin, pour ce qui est de l'audace, oui, certainement. Certainement. Qu'en pensait l'artiste ? Eh bien, revenons à ce qu'il nous disait dans sa conférence en Sorbonne, conférence qui est précisément intitulée « L'évolution de l'art vers l'immatériel ». En voici un extrait.
Je désire, avec cette tentative, créer, établir et présenter au public un état sensible pictural dans les limites d'une salle d'exposition de peinture ordinaire. En d'autres termes, créer une ambiance, un climat pictural invisible mais présent, dans l'esprit de ce que Delacroix appelle dans son journal l'indéfinissable, qu'il considère comme l'essence même de la peinture. Cet état pictural invisible dans l'espace de la galerie doit être en tout point ce que l'on a donné de mieux jusqu'à présent comme définition à la peinture en général, c'est-à-dire rayonnement. Invisible et intangible, cette immatérialisation du tableau doit agir, si l'opération de création réussit, sur les véhicules ou corps sensibles des visiteurs de l'exposition avec beaucoup plus d'efficacité que les tableaux visibles ordinaires et représentatifs habituels, qu'ils soient figuratifs ou non figuratifs ou même monochromes.
Agir avec plus d'efficacité que ces tableaux monochromes, c'est en tout cas ce qu'il voudrait. Mais on peut aussi remarquer que dans cet extrême et plus largement au sein de cette conférence de 1959, Yves Klein n'évoque pas très précisément, il évoque un peu, hein, mais n'évoque pas précisément ce qu'il appelle par ailleurs le dispositif scénique. C'est intéressant ce terme qui nous vient du théâtre. J'y reviendrai éventuellement à cette affaire de théâtre. Et donc, on peut revenir sur ce dispositif scénique qui est global, qui ne comporte pas seulement une salle dans laquelle il n'y a rien à voir, pas grand-chose, peut-être quelque chose à ressentir, à éprouver, mais pas à voir, pas proprement à regarder, à contempler. Mais le dispositif, donc, est plus global. Je reviens sur l'entrée de l'exposition, et je passe cette photographie avec le dé bleu au travers de duquel vous pénétrez. Et remarquez également que la vitrine à l'extérieur est peinte en bleu. Elle est peinte en bleu, de telle façon d'ailleurs que l'on ne puisse pas voir, même en se mettant sur la pointe des pieds, ce qui se passe, regardez avec la proportion du personnage, ce qui se passe à l'intérieur de la galerie. Donc le bleu, là, est à l'extérieur. Il était déjà avec le petit timbre bleu qui a été réemployé par Klein, et puis il était aussi avec le bleu de l'encre qui a servi à imprimer le texte de Pierre Restany. Donc le bleu est à peu près partout. Le visiteur est conduit, non pas à emprunter la porte ordinaire de la galerie, mais la porte dérobée, la porte de service en quelque sorte, et donc il rentre dans l'immeuble et il passe sous ce dé bleu. Il traverse la couleur, on peut le dire comme ça, il traverse la couleur. Et à l'intérieur de la cour de cet immeuble, il peut, s'il le désire, boire un cocktail qui a été préparé pour l'occasion par les spécialistes du bar La Coupole, un cocktail qui est bleu, du gin, du Cointreau et du bleu de méthylène. Et donc le bleu, non seulement il est partout à l'extérieur, mais il peut même l'ingérer, il est en lui, il conduit le bleu avec lui à l'intérieur de la galerie. Et un projet de Klein a capoté à la dernière minute pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer ici, mais ça a été réalisé par la suite, plus tard. Il voulait, au moment du vernissage, donc le 28 avril 1958, que l'obélisque de la place de la Concorde fût illuminé en bleu. Opération qui a été réalisée donc plus tard, d'où la photographie que vous voyez là. Donc Klein le dit très bien. Par ailleurs, dans un texte qu'il a publié aussi en 1959, Le dépassement de la problématique de l'art, le titre est très très intéressant, Dépasser la problématique de l'art, il dit donc, je le cite, le bleu tangible et visible sera dehors, à l'extérieur, dans la rue, et à l'intérieur, ce sera l'immatérialisation du bleu, l'espace colore qui ne se voit pas, mais dans lequel on s'imprègne. Alors, l'espace colore, c'est pas l'espace coloré, c'est pas une faute. D'abord, c'est l'expression même d'Yves Klein, hein, l'espace colore. Klein est aussi un inventeur comme ça de verbes. Il trouve des moyens de faire comprendre qu'il n'a pas une logique tout à fait ordinaire, on va le dire comme ça, par le vocabulaire qu'il emploie. Et donc, il va pas s'en tenir là. Il va continuer pour qu'on comprenne bien, parce que Klein a le souci d'être compris. Il veut nous entraîner avec lui dans cette aventure qu'il vit pleinement et que, d'une certaine manière, il vit au premier degré. Ce n'est pas les acrobaties d'un artiste avant-gardiste, on y reviendra tout à l'heure, il n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est un artiste qui est absolument convaincu de ce qu'il fait. Et alors, aller plus loin, eh bien, il profite à nouveau d'une exposition dans laquelle il est invité, qui se déroule, celle-ci, à Anvers, dans un lieu qui s'appelle Essa Nuis, et c'est une exposition qui est intitulée, c'est intéressant le titre, Vision in Motion, Motion in Vision. Donc l'idée de vision est présente, c'est en 1959, et il la raconte ainsi. Je vais vous lire le récit qu'il en fait dans ce texte, Le dépassement de la problématique de l'art. Invité à exposer avec un groupe d'artistes, composé de Bourri, Tingoli est un de ses grands amis, bien entendu, Roth, c'est Dieter Roth, Breuer, Mack, Mounari, Spoerry, Daniel Spoerry, un des membres du Nouveau Réalisme, Pienet, Soto, je me rends à Anvers et, au moment du vernissage, à l'emplacement qui m'était réservé dans la salle d'exposition des Anouis, au lieu d'y placer un tableau ou un objet tangible et visible quelconque, je prononce, donc là, il est là sur la photographie, vous le voyez, je prononce d'une voix forte devant le public ces paroles empruntées à Gaston Bachelard, qui fut par parenthèse professeur à la Sorbonne, d'abord, il n'y a rien, ensuite, il y a un rien profond, puis une profondeur bleue. C'est emprunté à l'air et les songes. L'organisateur belge, poursuit Yves Klein, l'organisateur belge de cette exposition me demande alors où se trouve mon œuvre. Je réponds, là où je parle en ce moment. Et quel en est le prix de cette œuvre ? 1 kilo d'or, un lingot d'or pur d'un kilo me suffira. C'est donc d'échange entre cette sensibilité picturale invisible qui est pour lui ce qu'on a fait de mieux du point de vue de la peinture, c'est-à-dire du rayonnement, avec l'étalon, en quelque sorte, monétaire, et pas des papiers-monnaies, pas des espèces, pas de la monnaie fiduciaire. L'étalon, c'est d'ailleurs le moment où il va y avoir des emprunts, l'emprunt Pinet qui est gagé sur l'or. Hein. C'est aussi, l'étalon or disparu, les accords britanniques, enfin, passons là-dessus. Et donc, c'est très important, cette idée, qu'il y a la possibilité de vendre ces œuvres. Parce que là, l'exposition de 1958, bon, il n'y a pas grand-chose à vendre. Hein, c'est pas, voilà. Mais pourquoi c'est important ? C'est pas pour l'argent, c'est pas pour gagner sa vie, c'est tout simplement qu'une œuvre qui n'accéderait pas au marché de l'art ne serait pas véritablement une œuvre. Les œuvres, eh bien, ça s'échange. Et ça s'échange contre, alors, de l'argent, mais Klein a cette sorte d'intuition, c'est que ça ne peut pas être de l'argent ordinaire. Ça s'échange contre ce qui se fait de mieux pour l'argent à son époque, c'est-à-dire l'or, l'étalon or. L'étalon or dont on a encore, peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs certains d'entre vous, la nostalgie. Et donc il va imaginer d'échanger effectivement ce qu'il va appeler des zones de sensibilité picturale immatérielle contre un certain point d'or, poids d'or. Donc il va mettre en vente et il va donc réaliser, faire imprimer ce qu'on a appelé indûment des chéquiers, qui sont en fait des carnets à souche, pour ces zones de sensibilité picturale immatérielle. Il y a 6 séries, de la numéro 1, la plus économique, à la numéro 6, bien entendu. Et à chaque fois, le prix en or double. C'est-à-dire qu'on part de 20 grammes d'or, puis c'est 40, puis 80, puis 160, etc. On va jusqu'au bout. Donc, on cumule comme ça. Et il va réaliser un certain nombre de sessions pour lesquelles il y a un dispositif qu'il imagine, pour qu'on puisse donc échanger des zones de sensibilité picturale et matérielle, c'est-à-dire un critique, Pierre Desargues, dira Klein vend du vent. Mais peut-être pas. En tout cas, un certain nombre d'amateurs ont été convaincus et 3 sessions complètes ont été documentées par la photographie, complètes, c'est-à-dire avec d'une part, je vais vous passer tout de suite l'image de la session Blankfort, avec d'une part des témoins qui sont là pour assister à la scène, d'autre part, l'échange entre les lingots d'or ou les feuilles d'or, et puis le reçu, et d'autre part, l'acte pour l'amateur de brûler son reçu pour incorporer véritablement cette œuvre. Donc il n'a plus rien en vérité, il n'y a rien à montrer après, il n'y a plus rien à exposer, plus rien à accrocher à ses, sur ses murs. Et pendant que l'amateur brûle son reçu, s'il y consent, alors Klein rejette dans la nature, ici dans la Seine, la moitié de l'or reçu en paiement pour cette zone de sensibilité picturale immatérielle. Et c'est précisément ce qu'il fait, à la fois avec Dino Buzzati, le 26 janvier 62, qui a acquis une œuvre pour 60 grammes, Buzzati qui avait écrit un article très important sur lui quand il avait exposé à Milan en 57, avec son ami Claude Pascal, et surtout ici avec Michael Blankford, qui est un scénariste hollywoodien et qui achète, lui, une œuvre de la série numéro 4. Donc il achète la zone de sensibilité picturale immatérielle numéro 1 de cette série numéro 4 à 160 grammes d'or. Et donc, en fait, vous avez deux lingots qui vont être remis au directeur de musée qui sert de témoin pour la transaction. Et donc là, vous voyez ce geste et vous voyez les documents qui ont été collés dans son pressbook par Yves Klein lui-même et les annotations qui nous permettent de suivre cette histoire, cette petite histoire qui se joue. Alors comment, pour l'instant on n'a pas parlé de vide, hein, on a parlé tout le temps de sensibilité picturale immatérielle, mais pas de vide. Alors comment est-ce qu'on est passé à l'exposition du vide? Ben, évidemment au début on l'a dit tout de suite, à l'exposition du vide. Et puis surtout, le vide va s'imposer au moment où... une autre exposition dans la même galerie, là vous reconnaissez, je pense, la vitrine, vous reconnaissez le 3, le numéro 3, c'était le numéro 3, la galerie Iris Clair dans cette rue des Beaux-Arts. Une autre exposition va être organisée, qui est celle de son ami Armand, l'exposition du plein. Alors le plein, ça c'est le titre réel que donne, et vous voyez bien, la galerie est pleine, vous ne pouvez pas rentrer, elle est pleine. Et donc c'est le plein, alors Armand, les poubelles remplies, le plein, enfin bon, c'était son affaire à l'époque. Et donc dans l'invitation qui est par ailleurs envoyée sous forme d'une boîte de sardines remplie de toutes sortes d'objets, tickets de métro, etc., il y a un petit texte à nouveau de Pierre Restany. On est en 1960, hein, là. Un texte de Pierre Restany qui écrit ceci: jusqu'à présent, aucun geste d'appropriation à l'antipode du vide n'avait cerné d'aussi près l'authentique organicité du réel contingent. Restany parle comme ça, bon, voilà, il parlait comme ça. En tout cas, à l'antipode du vide, ça c'est très très intéressant, parce que finalement, à partir de là, même Klein va parler du vide pour évoquer cette exposition du 28 avril 1958. Et après, il tentera d'articuler le vide à l'immatériel. Mais enfin, on ne va pas aller dans cette direction-là maintenant avec lui. Et je voudrais, pour qu'on comprenne bien cette manière de faire qu'a l'artiste, qu'on revienne à l'une, et qu'on fasse un petit détour, donc qu'on revienne à l'une de ces autres déclarations, puisque, voilà, les textes, vous avez deux manuscrits, je trouvais ça intéressant qu'on ait la voix, qu'on ait l'image de l'artiste, mais qu'on ait aussi ces textes écrits là, sous forme de manuscrits. Là aussi, il tâtonne, il y a souvent plusieurs versions du même texte. Et donc, je pense que pour bien comprendre la démarche de l'artiste, Il faut la situer dans ce contexte d'une tradition qui est très vivace en France, c'est le classicisme. Donc c'est évidemment un peu paradoxal, un peu provocateur ce que je vous dis, mais faites-moi la grâce de penser au moins quelques minutes que c'est sérieux. Alors le classicisme a souvent été vilipendé sous la forme d'académisme, c'est évidemment tout à fait injuste, et Yves Klein, qui a toujours énergiquement refusé d'être qualifié d'artiste d'avant-garde, prétend être un classique. Alors, vous le voyez là, dans, je ne sais pas si vous pouvez le lire, j'imagine que non, mais vous le voyez là-dedans, enfin, il écrit, là, c'est une des versions, où il dit qu'il est un des classiques. En tout cas, c'est si important pour lui que dans ce dépassement de la problématique de l'art, un petit opuscule qu'il publie en 59, il fait imprimer en caractère gras, donc c'est publié, c'est pas confidentiel, c'est pas en allant fouiller dans ses papiers qu'on voit ça. Il publie cette déclaration. En aucun cas, je ne me considère comme un artiste d'avant-garde. Je tiens à préciser que, bien au contraire, je pense et crois être un classique, peut-être même l'un des rares classique de ce siècle-là, l'un des rares classiques de ce siècle. Alors, évidemment, premier abord, on se dit, et de qui se moque-t-on ? Un classique, avec ce qu'il fait, sans doute pas, et pourtant. Donc, pour essayer de voir ce qu'il en est, je vais évoquer ici un artiste qui est considéré comme le classique parmi les classiques, qui est Nicolas Poussin, dont je vous montre ici La Manne, dont l'autre titre, plus explicite et plus narratif surtout, est Les Israélites recueillant la manne dans le désert. Alors apparemment, rien de commun entre Nicolas Poussin et Yves Klein. Alors, j'ai choisi ce tableau, mais absolument pas au hasard, bien entendu. Je l'ai choisi d'abord parce qu'il a été réalisé pour un collectionneur de l'époque, Paul Frère de Chanteloup, qu'il a fait l'objet de nombreuses exégèses, des exégèses qui sont nécessitées par le foisonnement des figures. C'est un tableau véritablement complexe, mais surtout parce que à son commanditaire, Chanteloup, le peintre recommande notamment, et je vous lis Nicolas Poussin dans la lettre qui accompagnait le tableau, au moment où il lui adresse, « Lisez l'histoire et le tableau afin de connaître si chaque chose est appropriée au sujet. » Lisez l'histoire et le tableau. C'est très très important cette affaire parce que c'est tout le classicisme qui est en jeu là. Et d'une certaine façon, c'est précisément ce que Klein nous invite à faire. Klein qui souhaite que nous devenions des lecteurs de ces tableaux. Et il faut en effet les lire, alors les tableaux et le reste, sans doute, pour en déchiffrer le sens. Pour ce qui est de Nicolas Poussin, je n'ai pas non plus, de ce point de vue, choisi au hasard. Il existe, vous le savez sans doute, une très célèbre conférence de Charles Lebrun qui avait bien connu Poussin lors de son séjour à Rome, conférence qu'il a consacrée donc à ce tableau devant l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc cette conférence est du 5 novembre 67, Poussin est mort 2 ans plus tôt, et Poussin s'attache à décrypter l'histoire telle que l'artiste la narre à partir du texte biblique. Alors, il s'attache à montrer, je ne vais pas reprendre, ce n'est pas le sujet ici, mais enfin, résumons, il s'attache à montrer que les différents groupes évoquent plusieurs moments d'histoire, plusieurs attitudes devant le miracle, en fonction de l'âge des protagonistes, de la psychologie de chacun, hommes, femmes, vieux, jeunes, etc. Et puis les analyses formelles, qui ne sont nullement négligées par Lebrun, nous montrent par exemple que l'éclairage est très important, que l'éclairage permet d'attirer l'attention du spectateur, de l'amateur sur tel ou tel groupe, et que d'autres, au contraire, sont plus voilés. Et il poursuit, et puis finalement répond à une question, sans doute de Philippe de Champaigne, qui conteste la fidélité du peintre au texte. Alors c'était évidemment un point crucial, puisqu'en plus c'est un texte important, puisque l'épisode de la manne est raconté dans la Bible. Et le Brun explique en substance à Poussin que explique en substance à Champaigne pardon que Poussin a dû inventer pour raconter l'histoire tout entière et ainsi d'une certaine façon rester davantage fidèle au texte. Et il distingue là les moyens de la littérature, qui est un art du temps, et ceux de l'image visuelle, un art de l'espace. Alors, nous sommes très très habitués à entendre ces arguments parce qu'ils ont été repris notamment par Lessing au XVIIIe siècle, mais c'est une distinction cruciale, bien entendu. Hein. C'est une distinction qui n'a de sens que s'il y a correspondance, hein, corrélation en quelque sorte, entre le récit narré par un texte, par des paroles d'une part, ou par une image. Voilà, qui a ses propres caractéristiques, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce que dit le rapport de cette conférence de Lebrun à cet égard, parce que je trouve ça très beau. À cela, M. Lebrun répartit qu'il n'en est pas de la peinture comme de l'histoire, qu'un historien se fait entendre par un arrangement de paroles et une suite de discours qui forment une image des choses qu'il veut dire et représentent successivement telle action qui lui plaît. Mais le peintre, n'ayant qu'un instant dans lequel il doit prendre la chose qu'il veut figurer pour représenter ce qui s'est passé à ce moment-là, il est quelquefois nécessaire qu'il joigne ensemble beaucoup d'incidents qui aient précédé afin de faire comprendre le sujet qu'il expose, sans quoi ceux qui verraient son ouvrage ne seraient pas mieux instruits que si cet historien, au lieu de raconter tout le sujet de son histoire, se contentait d'en dire seulement la fin. Et du coup, on peut effectivement expliquer que ces différents groupes que vous voyez ici, qui sont bien connus, l'autre ici, le Moïse et Aaron qui sont là, présente différents épisodes de l'histoire, différents moments de cette chute de la manne qui, par ailleurs, enfin, ne correspond pas effectivement directement au cercle biblique, mais essaie de nous faire comprendre quelque chose. Donc la lecture du tableau d'épisode en épisode, non seulement elle nous fait comprendre de quoi il s'agit, l'histoire qui est racontée par le tableau, mais vise aussi à nous instruire, à nous édifier. Par exemple, le groupe de gauche, celui-ci. Lebrun nous en parle beaucoup puisqu'il s'agit tout simplement d'une mère qui donne le sein à sa propre mère. C'est un bel exemple de charité au moment où, nous dit Lebrun, cette femme ôte le lait à son enfant, elle tente de l'apaiser par des caresses et des paroles. Alors, ce que Lebrun ne dit pas, c'est que dans cette invention de ce groupe avec donc, les trois générations et la fille qui donne le sein à sa mère pour la nourrir. Autrement dit, la manne n'est pas encore là. C'est pourquoi elle a besoin de nourriture, cette pauvre femme déjà âgée. Eh bien, ce que ne nous dit pas Lebrun, c'est que, évidemment, Poussin, il ne le dit pas, c'est évident à son époque, hein, Poussin reprend une thématique tout à fait connue à l'époque, qui est celle de la charité romaine, et que cette charité romaine, eh bien, elle nous montrait une histoire qui, elle, est une histoire antique. Elle est racontée par divers auteurs, mais notamment par Pline l'Ancien. Et c'est donc l'histoire d'un homme qui est emprisonné, privé de nourriture par ses geôliers, mais pas de visite. Sa fille, soigneusement fouillée à l'entrée, a le droit de venir le voir, et elle n'a d'autre moyen pour lui porter secours que de le nourrir au sein. Et c'est les geôliers, finissant par comprendre que le vieil homme ne dépérit pas, finissent par observer la scène. Et l'histoire dit que, émus, les juges ont relâché le père, exonéré la fille. C'est donc un bel exemple de dévouement filial. Et il y a cette sorte de parallélisme comme ça, entre l'Antiquité, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, et puis le Nouveau. Et avec Nicolas Poussin, nous sommes à cette jonction, parce qu'on n'est pas encore tout à fait là dans la charité chrétienne, qui elle-même est, dans l'iconographie chrétienne, incarnée toujours par une femme et généralement des enfants qui sont autour d'elle et qui offrent effectivement... tout ça est tout à fait convaincant, mais demande à être explicité, à être effectivement... Il faut lire. Je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de voir les choses. Donc, classerait-il effectivement, comme Nicolas Poussin, un raconteur d'histoire ? Eh bien, je crois que oui. J'ai essayé de vous montrer qu'il nous racontait des histoires. On n'y croit pas, mais enfin, ce sont des histoires, ce sont des récits, ce sont des fictions. On ne vous dit pas que c'est vrai. On vous dit que c'est de cela qu'il s'agit. Et il utilise toutes sortes de moyens, y compris des moyens visuels, pour raconter cette histoire. Alors, bien entendu... Klein ne nous raconte pas une histoire que nous connaîtrions déjà par des textes, ce que faisaient les peintres au XVIIe siècle, en général, le plus souvent. Et puis, son sujet est tout différent. Et s'il veut nous instruire, c'est sur ce qu'est l'art. Il nous parle, en fait, de l'art, et il nous parle de sa compréhension de l'art, et notamment... Il milite à sa manière et à son époque contre l'art conçu comme l'expression de soi, c'est-à-dire comme ce que faisaient les peintres abstraits dits lyriques ou expressionnistes de son époque, qui étaient très en vogue et contre lesquels il était. Donc lui, Klein, il nous parle de la peinture, il nous livre une réflexion sur la nature de l'art, sur la sensibilité et ses modes d'action. Il le fait en artiste, mais d'une certaine manière, son propos est d'ordre philosophique ou esthétique, et sa démonstration passe par l'expérience de l'invisible. Or, l'expérience de l'invisible, elle est en réalité assez commune, mais dans d'autres domaines. Il importe dans le domaine de l'art, chose qui est assez connue, par exemple, des esprits religieux. L'invisible est presque toujours convoqué par... un moment ou un autre, dans les histoires religieuses. L'invisible existe, bien entendu, de ce point de vue-là. Et nous savons aussi, à l'époque de Klein, on savait parfaitement bien que, par exemple, il existe des rayons, les rayons X, invisibles, et qui ont une action. L'invisible, ça n'est pas rien, en vérité. Donc, de l'invisible faire œuvre, mais faire œuvre pour raconter, et c'est là que Klein, je crois, est... en quelque sorte profondément un classique, c'est-à-dire un classique en son fond. Il n'est pas un classique dans ce sens qu'il imiterait la peinture des classiques du XVIIe siècle, mais parce qu'il utilise les moyens qui sont ceux qu'utilisaient déjà les artistes du XVIIe siècle, d'autres avant et d'autres ensuite, c'est-à-dire lier les œuvres visuelles avec quelque chose qui est de l'ordre de la narration. Cette narration passe par des textes ou par du récit oral. Alors, Klein n'est pas un cas isolé, ce qui prouve que finalement, son expérience a laissé des traces assez profondes dans les pratiques des artistes qui ont suivi. Assez profondes pour que soit organisé à plusieurs reprises des rétrospectives, que je n'évoquerai pas bien longuement, mais j'évoque leur existence, des rétrospectives d'œuvres invisibles, plus ou moins invisibles. Et vous voyez là celle dont je vais vous parler dans un instant. Mais avant, je voudrais citer ce que je crois être la première d'entre elles, qui s'est passée à Richmond en 1969. Donc l'artiste était mort, mais depuis peu de temps. Et l'exposition s'appelait « Invisible Painting and Sculpture ». Et vous avez, en 2005, une exposition qui se passe à San Francisco, une exposition relativement modeste, Lewis Institute for Contemporary Art, A Brief History of Invisible Art. Et elle est organisée par quelqu'un, Ralph Rugoff, qui va ensuite nommer à la Hayward Gallery de Londres et qui réalise une exposition la plus considérable, dont vous voyez l'entrée du bâtiment, et puis l'entrée à l'intérieur du bâtiment qui nous mène donc dans l'exposition. Je ne sais pas si vous pouvez lire là, le panneau, mais c'est écrit invisible. Et là, je vais vous indiquer dans un instant de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement sur ce calicot d'Yves Klein lui-même, de dos, parce qu'il rentre, il nous invite à rentrer à sa suite, en quelque sorte, dans cette exposition. Et cette photographie, c'est celle de l'artiste dans une salle qu'il avait réservée, une salle donc vide, et qui est souvent appelée Raum der Leere, dans l'espace du vide, enfin, mais qui est réservée à la sensibilité picturale à l'immatérielle, dans son exposition de Krefeld. C'était en 1961, une exposition qui s'appelait Monochrome und Feuer. C'est là qu'il met au point donc, les feux principaux. Et vous avez plusieurs photographies de lui dans cet espace. Et là, il s'enfonce dans l'espace. Et donc, évidemment, Ralph Rugoff se réfère à cette expérience de Klein. Et il se réfère très précisément à cette expérience de Klein quand, dans le titre de cette manifestation, que, oui, je l'ai noté là, donc vous pouvez le voir, donc 1957, dans cette Archibald Unzin, 1957, c'est précisément, il le dit dans le texte d'introduction, le petit catalogue assez modeste de l'exposition, c'est précisément la toute première expérience de Klein que je vous ai montrée au premier étage de la galerie Colette à lundi. Et donc, il se réfère à ça, c'est-à-dire à ça comme une sorte de commencement, si vous voulez, de l'art invisible. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces expositions qui se présentent comme des rétrospectives d'art invisible? Eh bien, en réalité, beaucoup de choses, parce qu'on ne voit pas que des œuvres, des salles vides, si vous préférez. Non, on voit aussi de la documentation, et notamment pour Klein, on voit un certain nombre de documents. Et puis pour d'autres artistes, et je vais en évoquer un maintenant, pour d'autres artistes, on voit des documents tout simplement parce que l'œuvre invisible ne peut pas être transportée parce qu'elle est installée dans un espace public et que ça ne peut pas être transporté. Et cette l'œuvre dont je vais vous parler maintenant a été évoquée donc dans l'exposition de Ralph Rugoff à Londres. De la documentation de type photographique. Cette œuvre, c'est celle-ci, c'est un monument, évidemment vous ne voyez rien, qui a été réalisé par Joren Geertz à Sarrebruck. Alors je voudrais juste une petite parenthèse, dire que l'invisible, c'est un assez bon marchepied. Klein, il n'a pas complètement échoué sa carrière artistique, mais Ralph Rugoff non plus, parce que Ralph Rugoff, il a été nommé il y a peu de temps commissaire général de la prochaine Biennale de Venise, ce qui n'est pas rien dans le milieu. Et donc, effectivement, comme on le dirait en langage un peu contemporain et relâché, c'est porteur, l'invisible. Et maintenant, je vais vous parler de cette œuvre, parce qu'il fallait bien en choisir une, mais il y en aurait beaucoup d'autres très intéressantes, qui recourent à quelque chose d'invisible. Et je vais vous parler de cette œuvre parce que là, vraiment, toute plaisanterie est absolument exclue. De quoi s'agit-il? Invité en 1990 à enseigner dans l'école d'art de la ville, Joren Geertz, un artiste d'origine allemande vivant alors en France et vivant depuis de nombreuses années en France, n'est plus en France, eh bien, il propose à ses étudiants de travailler sur la mémoire. Il faut dire que Joren Geertz a commencé aussi ses activités plutôt comme poète, et il y a toujours aussi cet aspect textuel, narratif, des performances, des choses de ce genre. Bref, récits, paroles ne sont pas absentes de son, mots ne sont pas absents de son, art. Alors, pour des raisons évidentes, celle de la ville et de son passé nazi, s'imposa un projet qui était d'évoquer ce passé-là. Alors, comment s'y prendre? On ne sait trop qui a eu cette idée, mais germe à un certain moment, comme ça, cette considération. De nombreux cimetières juifs présents sur le sol allemand avant 1933, avant donc l'accession d'Hitler au pouvoir, ont depuis lors disparu. On va enquêter là-dessus et on va faire quelque chose sur cette disparition. Alors, comment l'évoquer, cette disparition? Faisons court. Eh bien, par une présence réelle, concrète, mais non visible. Ainsi serons-nous, pense-t-il, cohérents avec l'idée même de la disparition. Alors, si je vous montre quelque chose, je vous montrerai quelque chose qui est là, qui n'est donc pas disparu. Et donc, sur les quelques 8000 pavés de la place du château, eh bien, il décide de, petit à petit, naturellement, jour après jour, de déceler quelques pavés chaque jour, mais tous les pavés nécessaires, et de déceler, d'enlever, d'ôter, mais dire placebo en remplacement, des pavés, de graver un nom de cimetière disparu sur le pavé, mais à l'envers, si je puis dire, et puis de reposer ensuite, un peu plus tard, le pavé en place, mais l'inscription contre terre, donc évidemment totalement invisible, là, présente, réelle, mais pas visible. Et c'est effectivement ce qui va être fait. Alors, l'histoire est évidemment plus compliquée, parce que vous imaginez bien que déceler des pavés, même si on met des pavés en remplacement, ça finit par quand même se savoir un peu, d'autant plus que c'est devant un bâtiment qui est surveillé par la police et que, enfin bon, tout ça crée de l'agitation. Ça se terminera par un grand débat dans le Parlement de Sarre, qui n'a pas lieu d'évoquer ici, mais bon. Je voudrais quand même indiquer qu'il y a une sorte de cohérence forte qui est évidemment pointée par Joringer lui-même, qui évoque un passé négatif, ce qu'il appelle le passé négatif, ce que des historiens ont aussi nommé le passé négatif. Alors ce passé négatif sur lequel il se penche, ce n'est pas directement celui des camps d'extermination de l'Allemagne nazie. On sait que ce régime avait non seulement l'intention d'éradiquer les races inférieures, mais encore celui de faire disparaître définitivement jusqu'au souvenir de leur existence. Pas de cimetière, pas de pierre tombale, pas de monument public, pas de nom gravé sur des stèles pour ces sous-hommes, notamment les Juifs d'Europe. Or, précisément, nombre de cimetières juifs présents sur le sol allemand avaient disparu. Et donc, c'est cette disparition au second degré, on pourrait dire l'inverse, à la puissance 2, qui est le sujet de ce monument négatif. Geertz et ses étudiants souhaitaient inscrire ce monument négatif dans nos consciences sans pour autant avoir à l'ériger dans l'espace. Le monument contre le racisme fut inauguré le 23 mai 1993. Une partie de la place du château. Donc là, vous voyez quelques-uns des pavés, c'est l'allée qui conduit au château. Mais c'est très grand, là, l'espace. Hein. Une partie donc, de cette place, celle qui est la plus proche du château, a été baptisée autrement, puisque la place s'appelle Place du Château. Et le 23 mai 1993 ont été inaugurées ces plaques qui nous indiquent ici, c'est la place non plus du château, mais la place du monument invisible. Nous ignorons évidemment où sont les pavés gravés. Un livre en donne la liste. Mais sur place, rien, rien n'est visible. Voilà une œuvre dont l'invisibilité même a une sorte de raison d'être très forte et qui est aussi de l'ordre de la narration. Et donc, pour conclure, je vois qu'il est l'heure, pour conclure, et puisqu'il s'agit finalement de récits dans cette causerie, de récits portés par les écrivains comme par des artistes, eh bien, je céderai la parole à un écrivain, Marcel Cohen. Dans son livre « Détails », paru aux éditions Gallimard en 2017, il consacre un chapitre, ce sont des petits chapitres courts, très beaux, il consacre un chapitre à des œuvres invisibles, trois exactement. Il évoque notamment un monument en partie disparu, un monument dû à Emmanuel Saulnier, donc un autre invisible pour d'autres raisons. Et il conclut ce chapitre par ce qu'il nomme un truisme, une idée reçue, une idée banale, enfin bon, etc. Pas si reçu, pas si banal que ça, et en tout cas un truisme qui donne à penser, me semble-t-il, et ce sera donc à travers les mots de Marcel Cohen ma propre conclusion. Un monument disparu dont on parle a plus de réalité qu'un monument existant qu'on ne regarde pas. Je vous remercie.